Il y a quelques semaines, un petit groupe était entré un dimanche après-midi pour visiter la chapelle Notre-Dame de Compassion. Il y avait des enfants, des adultes, des hommes et des femmes. Puis il y avait une enfant d'une dizaine d'années, 12 ans, qui se blottissait contre une des femmes et qui gémissait « Je veux pas voir ça, je veux pas voir ça !» Je me suis approché, j'ai dit « Qu'est-ce qui te fait peur ?» Et la femme, montrant, vous savez, j'ai un grand crucifix autour du cou que je porte, et montrant Jésus sur le crucifix, m'a dit « De ça !» Je me suis adressé à l'enfant, je lui ai dit « Je vais te raconter une histoire. » Le peuple d'Israël, qui était dans le désert, qui avait été libéré d'Égypte, avait été attaqué par des serpents brûlants, à la morsure de feu. Et Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent en bronze, en métal de bronze, mets-le en haut d'un mât, et tous ceux qui regardaient ce serpent de bronze étaient guéris. Quand nous regardons Jésus sur la croix, nous ne regardons pas la souffrance d'un homme, nous ne regardons pas un supplice, nous regardons l'amour qu'il a pour nous. Jusqu'où peut conduire l'amour ? Et toi, je dis à l'enfant, même quand tu es fâché, quand tu es très en colère, tu peux contempler dans la tendresse de ta maman tout l'amour qu'elle a pour toi. Une catéchèse magnifique. Je vous fais grâce du reste, c'était splendide. Est-ce que ça l'a réconcilié avec la croix ? Je ne sais pas, j'étais assez étonné, ça a eu l'air d'avoir de l'effet. Il est probable que cet enfant n'était pas baptisé. C'est le 14 septembre que nous fêtons la croix glorieuse, que nous entendons ce texte du récit des nombres sur l'histoire des serpents brûlants, avec le même évangile que celui que nous venons d'entendre aujourd'hui. Que représente pour nous le serpent ? Le diable. Il y a d'autres traditions qui en ont fait un symbole positif, qui en ont fait même une déesse mère, notamment le symbole de la régénération, parce que à cause de la capacité du serpent à muer, à renouveler sa peau. Mais pour nous et dans la tradition biblique, c'est une créature maléfique. C'est celui par qui la mort est entrée dans le monde. Le livre de la Genèse, le récit de la création, le livre de la Genèse ne dit rien de la création du monde invisible, des anges. Il n'en dit rien jusqu'à l'arrivée du diable sous la forme du serpent, au moment de la chute. Le qualificatif qui lui est donné alors, rusé, ne lui est pas spécifique. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. C'est une créature parmi d'autres, le diable. C'est un ange, c'est une créature spirituelle, c'était un ange déchu, mais c'est une créature. Et il est rusé, le mot, le verbe rusé vient du latin recusare, récuser, refuser, rejeter. Et l'adjectif rusé, il est synonyme de retors. C'est le contraire de ce qui est droit. Et on comprend très bien du serpent qui avance ainsi, par ondulation, il est celui qui, justement, n'avance pas droit. Il est une instance plutôt souterraine, symbole de ce qui est caché, de ce qui fait peur, de ce qui surprend et qui effectivement parfois peut être dangereux et peut être venimeux. D'où lui vient sa connotation sexuelle ? De ce qu'il est trompeur. À Dieu qui demande à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répond « Le serpent m'a trompé. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Le serpent est trompeur et la sexualité aussi, qui ne tient pas toujours ses promesses, qui est la source de beaucoup d'illusions et littéralement même de tromperies. On peut même se demander si la malédiction que le Seigneur a adressée au serpent ne concernait pas en réalité la sexualité, qui, à l'origine, avait été donnée par Dieu comme une source de plaisir et de vie, et qui est devenue, on dit, un des plus vieux métiers du monde. aujourd'hui encore un des gros business les plus lucratifs. Une industrie, et plus grave parce que beaucoup plus courant, plus quotidien, une source de tromperie, effectivement, de beaucoup d'illusions et de déceptions. Les relations sexuelles en général, quelles que soient les formes qu'elles peuvent prendre, sont frappées au sceau de la convoitise et de la domination à cause du diable. On ne comprend pas la part de convoitise et de domination qui entre dans les relations humaines. Et dans les relations sexuelles en particulier, on peut toujours en faire les analyses psychologiques qu'on veut. On ne comprend pas, si on met de côté ou si on ignore, l'hostilité de l'adversaire, de l'ennemi, du diable. Il y en a qui disent, oh non, moi j'ai pas d'ennemi. Vous leur demandez, mais le diable est-il votre ami? Lorsque Jésus dit, aimez vos ennemis, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qu'il commence par faire dès le début de sa vie publique, il exorcise et il chasse les démons. Aimer ses ennemis signifie discerner et dénoncer en eux le pouvoir, le rôle de Satan. Pourquoi les crimes sexuels ont-ils frappé pareillement l'Église depuis quelques décennies? Sous une forme peut-être jamais connue dans l'histoire. Dans l'histoire de l'Église, dans le passé, on a connu des dépravations du clergé scandaleuses, abominables. Il suffit de lire les dialogues de Sainte-Catherine de Sienne. Mais des horreurs, comme ces dernières décennies, peut-être jamais à ce niveau d'inconscience. Cela s'est produit à partir du moment où on a négligé, dès le baptême, dès le rituel du baptême, le combat spirituel. Le combat spirituel à mener. Dans l'ancien rituel du baptême, on commençait par plusieurs prières d'exorcisme successives. Il y en avait une notamment magnifique qui demandait à Dieu pour l'enfant qu'on baptisait. On lui disait, écartez Seigneur de lui, écartez tout aveuglement du cœur. Brisez tous les liens par lesquels Satan le tenait attaché. Ouvrez-lui la porte Seigneur dans votre miséricorde. Qu'imprégnez du sel, symbole de votre sagesse, il ne soit pas atteint par l'infection des passions mauvaises, mais qu'au parfum de vos enseignements, il vous serve avec joie dans l'Église et qu'il progresse de jour en jour par le Christ, notre Seigneur. C'est avec une très bonne intention que l'Église également, à peu près dans le même temps, a choisi de donner le sacrement de confirmation à l'adolescence, au moment de la puberté. Encore faut-il avoir expliqué dès leur plus jeune âge aux enfants et surtout aux adolescents le danger et la pression que représentent toutes les pulsions, toutes les passions. Nous l'entendrons au jour des rameaux ici dans l'évangile de Saint-Marc. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation, l'esprit ardent, mais la chair est faible. La religion chrétienne est une religion du corps. Une religion de l'incarnation, où Dieu se fait homme. Elle est une religion de la résurrection, de façon à sceller, de façon irrémédiable, définitive, l'unité de l'âme et du corps. La religion chrétienne est une religion de l'amour. Et les deux grandes fêtes de l'année, la double lumière et de Noël et de Pâques, éclairent de façon prodigieuse le mystère de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et ce sont trois révélations essentielles, fondamentales, de l'incarnation, de la résurrection et de la grâce, qui doivent régir notre usage de la sexualité. Pour que nous en fassions un juste usage au regard de ce qui peut nous rapprocher de Dieu, ce qui est conforme à sa volonté, de ce qui nous fait imiter Dieu, de ce qui peut bénéficier du secours de Dieu, de sa grâce. Comment fait-on pour résister aux tentations? Pour préférer, ce sont les termes de l'évangile de ce dimanche, la lumière aux ténèbres. Alors on dit, c'est une question d'intelligence. Soit, C'est une question de volonté, certainement, mais pas seulement. C'est aussi une question de mémoire. Souviens-toi, c'est la leçon du serpent de bronze. Souviens-toi que chaque fois que tu as voulu satisfaire un désir, tu n'as pas forcément été déçu, mais tu n'as jamais atteint la plénitude que tu espérais. Jamais, en tout cas jamais longtemps. Oui, il est possible et il est même merveilleux que des œuvres de la chair, pour reprendre cette expression, des œuvres de la chair soient accomplies en union avec Dieu. C'est la grandeur du mariage, c'est la grandeur et la beauté de l'union des époux. Mais comme le dit Saint-Pierre dans sa lettre, soyez vigilants. Veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion qui rugit, rôde, cherchant qui dévorer, résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but aux mêmes souffrances, c'est-à-dire aux mêmes tentations. Et la première tentation par laquelle nous sommes à la fois délivrés par notre baptême, nous est donnée cette force de Christ, c'est la tentation du mensonge. C'est comme ça aujourd'hui nous baptisons, que nous tenons effectivement cette prière d'exorcisme, nos délivrances au moment du baptême. Seigneur, tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Comment sait-on que le diable s'est introduit dans des relations sexuelles? Il faut quand même apprendre à reconnaître les traits du démon. Nous connaissons les armes pour le combattre. Elles nous sont particulièrement données ou rappelées au moment du carême. La prière, le jeûne, le partage. Mais comment est-ce qu'on reconnaît les attaques? Il y a trois traits du démon qui sont le mensonge, la transgression et l'égoïsme poussé à l'ultime, ne penser qu'à soi. Le premier, c'est le plus évident, c'est le mensonge. Dans toute relation amoureuse, dans toute relation affective, dès lors qu'il y a déjà la petite faille du mensonge, le diable est présent. Le diable est présent qui fera tout pour inciter la personne à utiliser tous les moyens pour assouvir ses désirs, pour arriver à ses fins, pour préférer finalement l'instant, pour préférer le plaisir de l'instant de la créature au bonheur du Seigneur. En matière de sexualité, la question n'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. En matière de sexualité, la question ne porte pas sur l'acte, elle porte sur la relation. Est-ce que cette relation est vraie? Est vraie. Il ne suffit pas qu'elle soit sincère, c'est déjà immense qu'elle soit sincère, mais vraie. Vous savez ce que dit le psaume? Cœur double, lèvres menteuses. Le deuxième trait du démon, très symptomatique d'aujourd'hui, c'est la transgression, le plaisir de la transgression. Vous savez, ce sentiment de toute puissance, cette fausse liberté que donne le fait de se placer au-dessus des lois ou en dehors des lois. Exactement comme le serpent qui se croyait, c'est lui qui se croyait le plus rusé, qui se croyait au-dessus le plus rusé de tous les animaux. Il n'était pas. Et qu'on ne s'y trompe pas, surtout aujourd'hui. C'est pas en changeant les lois, c'est pas en changeant les lois civiles qu'on fait disparaître la transgression. Enfin, il ne suffit pas qu'il y ait mensonge et transgression. Il faut aussi que la recherche du plaisir, le profit, soit vraiment égoïste à son terme exclusif. Vous connaissez cet argument caractéristique en disant « Oh ben non, ça ne gêne personne ». C'est ce que ça veut dire, ça ne gêne personne? Ça veut dire, ça ne profite qu'à moi. Celui qui vous dit ça, vous pouvez être sûr qu'il a fait le choix des ténèbres. Qu'il a entendu le démon qui dit, pense plutôt à toi. Combattre le mensonge par la prière. Adorer en esprit et en vérité. Renoncer à la transgression par le jeûne. C'est ça le jeûne, c'est pouvoir se resituer, se remettre humblement à l'intérieur des limites de la loi. Faire la lumière sur nos motivations. Retrouver au fond de soi le vrai désir de notre cœur. ce que nous appelons depuis toujours une pureté d'intention. Vous voyez, vous en voyez la dimension trinitaire, la vérité que l'on doit au Père, l'obéissance du Fils et l'esprit d'amour, l'esprit de charité, de partage et d'union. Ce point est très important pour tous les hommes et pour toutes les femmes de tous les temps. C'est de notre lien, c'est de notre relation à la Trinité que dépend notre capacité à concilier sexualité et pureté d'intention.